Il y a une certaine catégorie d'aventuriers et d'écrivains aventuriers qui ont été fondateurs pour moi.
Sylvain Tesson.
Je pense notamment à Jack London, parce que, en fait, ce sont des écrivains qui ont tiré leur inspiration de l'expérience vécue. Et moi, ça me plaît beaucoup chez Jack London, l'idée qu'il a écrit sur la boxe, mais il a vécu la boxe. Il a écrit sur le Grand Nord, mais il a vécu le Grand Nord.
Ça peut pas faire de mal.
J'aime bien l'idée, oui, de cette espèce d'incarnation. Et c'est un type qui a été pris pour un auteur pour enfants sous prétexte qu'il mettait en scène des chiens et des traîneaux et des peaux rouges. Et en fait, ça va bien au-delà de ça. Et moi, je trouve que c'est un univers magnifique, un vrai univers d'aventure, c'est-à-dire un univers de vie violente et tempétueuse.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Buck ne lisait pas les journaux. Sinon, il aurait su qu'il y avait de l'orage dans l'air. Pour lui-même, comme pour tous les chiens, aux muscles puissants et aux longs poils bien chauds, qui habitent le long de la côte de Californie, de Puget Sound à San Diego. Parce que les hommes, tâtonnant dans les ténèbres de l'Arctique, avaient découvert un métal jaune, et que des lignes maritimes et des compagnies de fret transformaient cette découverte en ruée, ils se précipitaient par milliers vers le Grand Nord. Ils avaient besoin de chiens à la puissante musculature pour endurer la besogne et à l'épaisse fourrure pour se garder du froid.
D'après tout ce que j'entends, la folie de l'or s'est emparée du monde entier.
Par milliers de gens.
De toutes les couches sociales, affluent à San Francisco et à Seattle et se battent pour avoir un passage vers l'Alaska.
Buck habitait une grande demeure au creux d'une vallée baignée de soleil, la vallée de Santa Clara, la maison du juge Miller, comme on l'appelait. Elle se dressait à l'écart de la route, à demi dissimulée par les arbres. Des allées de gravier y conduisaient en serpentant sur de grandes pelouses, à l'abri des branches entrelacées de hauts peupliers. Et sur cet imposant domaine régnait Buck. Tout le royaume lui appartenait. Il accompagnait les fils du juge à la chasse. Il sortait Molly et Alice, les filles du juge, dans leur longue promenade. Les soirs d'hiver, il se couchait au pied du juge devant le feu, ronflant dans la bibliothèque. Il était le roi. Régnant sur toutes les créatures qui rampaient, marchaient et volaient à la propriété du juge Miller, y compris les humains. Son père était un énorme Saint-Bernard, jadis compagnon inséparable du juge. Buck n'était pas aussi imposant, il ne pesait que 140 livres, car sa mère était un collet. Malgré cela, 140 livres, auxquels s'ajoutait la dignité que confère une belle vie et un respect universel, lui donnaient une allure de souverain. Durant les 4 années de son enfance, il avait ainsi mené la vie d'un aristocrate repu. Il n'était pas peu fier de sa personne et même quelque peu égoïste. Mais il avait évité le pire en ne devenant pas un vulgaire chien d'intérieur trop choyé. La chasse et les plaisirs du grand air l'avaient empêché d'engraisser, endurcissant ses muscles. Or donc, voilà quelle sorte de chien était Buck à l'automne 1897, lorsque la découverte du Klondike se mit à attirer des hommes du monde entier dans le Grand Nord glacé.
Le monde entier est en train de perdre la tête. La cupidité entraîne des gens normaux et sains d'esprit à commettre toutes sortes de folies. Regarde les dernières trouvailles. Une grande firme de New York a fait savoir qu'elle allait vendre des traîneaux à vapeur. Il n'y a qu'une façon de traverser, c'est avec un attelage de chiens et un traîneau.
En 1897, parmi ces hommes avides de faire fortune, un jeune Américain se lance lui-même dans la ruée vers l'or. À 21 ans, il a déjà beaucoup bourlingué. Ouvrier à 14 ans, matelot à 17, militant socialiste à 20 ans, celui que l'on surnomme le prince des pilleurs d'huîtres, ou Jack le Marin, part comme tant d'autres à la conquête de l'Alaska. De retour à San Francisco l'année suivante, atteint de scorbut et rongé par l'alcoolisme, il ne ramène de son périple qu'une pincée de poudre d'or qui lui rapporte la somme de 4 dollars. Mais le jeune homme autodidacte revient riche d'un autre trésor, la matière d'un passionnant récit d'aventure qui lui apportera 6 ans plus tard une renommée internationale. Il s'agit de l'écrivain aventurier Jack London et son célèbre roman « L'appel de la forêt » paru en 1903. Ce soir, partons pour le Grand Nord en compagnie de Buck, ce chien domestique qui va s'affranchir de ses chaînes au contact de la nature. Comme son auteur il y a 120 ans, découvrons cette contrée hostile où l'homme et l'animal se trouvent confrontés à leurs instincts primitifs. Car s'il peut être lu comme un conte initiatique et une quête de liberté, l'appel de la forêt est surtout l'histoire d'un retour aux origines, inspiré par la théorie de l'évolution qui a marqué la fin du XIXe siècle. Il est donc plus qu'un roman d'apprentissage, un roman de désapprentissage, une redécouverte de l'état sauvage. Pour parcourir cette œuvre qui a révélé le talent de Jack London, j'emprunte la nouvelle traduction de Marc Amfreville et Antoine Cazé, L'appel de la vie sauvage, publié dans la collection de la Pléiade, à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de l'auteur.
Et naturellement, les fripouilles se livrent maintenant au trafic des chiens. On s'arrache toutes les races possibles de gros chiens à poils longs, susceptibles de tirer une charge de 50 kilos pendant des jours. Et on pourrait dire qu'en ce moment, un gros chien vaut littéralement son poids en or.
Ouvrons le roman. Quelques pages après le portrait de Buck, voici les terribles épreuves que subit l'animal. Vendu par un jardinier peu scrupuleux pour couvrir ses dettes de jeu, le chien est enfermé dans une cage et transporté en train vers une grande ville du Nord-Ouest. Pour l'animal de compagnie, habitué aux douceurs du sud californien, c'est le début d'un long apprentissage de la violence. Extrait du chapitre 1, Retour au primitif. Deux jours et deux nuits durant, le wagon fut ballotté à l'arrière de locomotives hurlantes. Deux jours et deux nuits durant, Buck ne but ni ne mangea. Il était content d'une seule chose, la corde qui avait failli l'étrangler ne lui en serrait plus le cou. Maintenant, il en était débarrassé. Ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Jamais plus les hommes ne lui passeraient une corde autour du cou. Sa résolution était inébranlable. Au cours du voyage, il accumula des réserves de colère qui présageaient le pire pour le premier qui aurait maille à partir avec lui. Les yeux injectés de sang, il se métamorphosa en un démon ivre de rage. Il était si changé que le juge lui-même ne l'aurait pas reconnu, et les agents du train poussèrent un soupir de soulagement lorsqu'ils le débarquèrent à Seattle. Un homme trapu, vêtu d'un chandail rouge, fit son apparition et signa le registre pour la livraison. C'était le nouveau bourreau, devina Buck. Et il se précipita furieusement contre les barreaux de la cage. L'homme eut un sourire sinistre en montrant une petite hache et un gourdin. Puis, à grands coups de hache, il fracassa le couvercle en bois de la cage. « À nous deux, sale démon aux yeux rouges !» dit-il lorsqu'il eut ouvert un passage suffisamment large pour le corps de Buck. Puis l'homme lâcha l'outil et fit passer le gourdin dans sa main droite. Et ce fut un vrai démon aux yeux rouges qui se ramassa sur lui-même pour bondir, le poil hérissé, la bave aux lèvres, un éclair fou dans ses yeux injectés de sang. Il lança ses 140 livres de rage droit sur l'homme. Juste au moment où ses mâchoires allaient se refermer sur lui, le chien reçut un coup qui l'arrêta en plein vol. Il tourbillonna sur lui-même et retomba, son dos et son flanc venant heurter le sol. Jamais de sa vie il n'avait reçu un coup de gourdin et il ne comprit pas. Il se releva en grondant et s'élança de nouveau dans les airs. De nouveau le coup l'atteignit et l'envoya au tapis, terrassé. Cette fois-ci, il prit conscience que c'était le gourdin. Mais sa démence le rendait intrépide. Avec un rugissement féroce presque digne d'un lion, il chargea une dizaine de fois. Mais chaque fois, le gourdin brisa net son assaut. Après un coup particulièrement sévère, il tituba sans but. Le sang coulait de sa gueule, de son museau, de ses oreilles. Son beau poil était éclaboussé et maculé de bave sanguinolente. Alors l'homme s'avança et lui asséna délibérément un terrible coup sur le museau. Le chien s'abattit et s'écrasa au sol. Toute la souffrance qu'il avait endurée n'était rien par rapport à la douleur exquise de ce coup-là. « Il répond au nom de Buck, » dit l'homme à haute voix, lisant la lettre d'expédition collée sur la caisse. « Eh bien, ma foi, mon bon Buck, » poursuivit-il, « tu as appris à connaître ta place, et moi je saurai garder la mienne. Si t'es un bon chien, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si t'es un vilain chien, je te tannerai la couenne jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu piges ?» Buck était vaincu, il le savait, mais pas brisé. Il comprit une fois pour toutes qu'il n'avait aucune chance contre un homme armé d'un gourdin. Ce gourdin était une révélation. Il venait pour la première fois d'être confronté à l'inflexible loi primitive, la loi du plus fort, et il s'y soumettait. Sa vie prenait une tournure plus cruelle, et il affrontait cette nouvelle étape. Au fil des jours, d'autres chiens le rejoignirent, enfermés dans une caisse et attachés au bout d'une corde, certains dociles, d'autres enragés et rugissants comme lui. Les uns après les autres, il les regarda faire allégeance à l'homme au chandail rouge. Un jour, tandis qu'il était témoin de la brutalité de chaque séance, Buck en vit un qui ne voulait ni se le concilier, ni lui obéir, et qui finit par perdre la vie dans cette lutte pour la domination. De temps en temps, des inconnus rendaient visite à l'homme au chandail rouge et lui parlaient avec excitation. Et dès l'instant où de l'argent s'échangeait entre eux, ces inconnus repartaient avec un ou plusieurs chiens. Buck se demandait où ils allaient car ils ne revenaient jamais. Buck restait dans sa cage à nourrir son orgueil blessé. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient-ils, ces hommes étranges? Pourquoi le gardaient-ils prisonnier? Il n'en savait rien. Mais il se sentait oppressé par le vague sentiment d'une catastrophe imminente. Après son enlèvement, Buck prend conscience d'une rupture définitive avec son ancienne vie. Mais dans son malheur, le chien de la chance. Il est acheté par deux hommes qui vont se révéler bienveillants à son égard. Ses nouveaux maîtres, François et Perrault, sont deux Canadiens français travaillant comme messagers pour le gouvernement. Leur mission est d'assurer en traîneau la liaison du courrier entre les villes de Dawson et de Skagway, à 800 km l'une de l'autre, en Alaska. Docile, Buck apprend à porter le harnais et à prendre sa place dans la meute de chiens. Après la loi du plus fort, le voici confronté à une autre loi de la nature, l'obligation de se nourrir pour survivre. Derrière l'animal, on devine l'homme, le jeune Jack London, confronté au même dilemme moral pour la survie. Extrait du chapitre 2. La loi du gourdin et la loi des crocs. C'était une rude journée sur la piste. Remonter le canyon, atteindre Sheep Camp, dépasser la station de pesage, puis la limite des arbres, traverser des congères et des glaciers épais de plusieurs centaines de pieds, franchir enfin le col Chilcot, ligne de partage entre les eaux salées et les eaux douces, dont la silhouette menaçante garde l'accès au farouche désert glacé du Grand Nord. Il fit l'air bon train en descendant le long du chapelet de lacs qui emplissent les cratères des volcans éteints. Et il était tard lorsqu'ils parvinrent au grand campement sur la rive du lac Bennett, où des milliers de chercheurs d'or construisaient des embarcations en prévision de la fonte des glaces au printemps. Ce jour-là, ils parcoururent 40 miles, car la piste était bien damée. Malheureusement, le lendemain et les nombreux jours qui suivirent, ils tracèrent leur propre piste et n'allèrent pas si vite. Jour après jour, Buck trimait sous le harnais. Les hommes levaient toujours le camp dans le noir, et les premières lueurs de l'aube les voyaient lancer sur la piste, de nouvelles distances avalées derrière eux. Et ils plantaient toujours leur tente après la tombée de la nuit. Les chiens mangeaient leur ration journalière de poisson et se recroquevillaient sous la neige pour dormir. Buck était affamé. Il n'était jamais rassasié et la faim le tenaillait perpétuellement. Et pourtant, les autres chiens, parce qu'ils pesaient moins lourd et avaient toujours connu cette vie-là, parvenaient à se maintenir en bonne condition. Il ne tarda pas à perdre le raffinement qui caractérisait sa vie antérieure. Difficile sur la nourriture, il se retrouva en butte à ses compagnons qui, plus rapides, venaient lui dérober la ration qu'il n'avait pas achevée assez vite. Impossible de défendre sa pitance. Mais il observait et apprenait. Le jour où il vit Sournois, l'un des derniers venus, un chien rusé et voleur, dérober en douce une tranche de lard dans le dos de Perrault, Buck reproduisit le larcin dès le lendemain, emportant carrément tout le morceau. Mais on ne le soupçonna pas, et ce fut Pato, un gaffeur maladroit, qu'on punit pour ce forfait. Ce premier larcin montra que Buck était apte à survivre dans l'environnement hostile du Grand Nord. Il offrit la preuve de son adaptabilité, de sa capacité à se plier à des conditions changeantes, qualité dont le manque aurait impliqué une mort affreuse et rapide. De plus, il perdit tout sens moral, obstacle inutile dans la lutte sans merci pour l'existence. Car le respect de la propriété et des sentiments de chacun valait dans les terres du Sud, sous la loi de l'amour et de la camaraderie. Mais dans le Grand Nord, sous la loi du gourdin et des crocs, celui qui prenait en considération de telles choses était un imbécile, et en les respectant, il se condamnait à une mort certaine. Buck était apte, voilà tout, et s'accommodait inconsciemment à son nouveau mode de vie. Civilisé, il aurait pu mourir pour une cause morale, par exemple pour défendre les enfants du juge Miller. À présent, sa décivilisation était totale, comme le montrait son aptitude à fuir toute question morale, et par là même, à sauver sa peau. Bref, il progressait ou régressait rapidement. Ses muscles se firent durs comme du fer et il devint insensible à la douleur ordinaire. Non seulement il apprenait par l'expérience, mais des instincts endormis depuis longtemps se réveillaient en lui. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa lignée, le temps où les chiens sauvages couraient en meute à travers la forêt primitive et pourchassaient leurs proies pour les tuer. Aucun effort ne lui était nécessaire pour apprendre à se battre à coups de crocs acérés, vifs comme ceux du loup. C'était ainsi que se battaient ses ancêtres disparus. Il ranimait en lui la vie de jadis. Et quand, dans la nuit froide et immobile, il pointait le nez vers la lune et poussait un long hurlement de loup, c'était ses ancêtres, morts et enterrés, qui hurlaient à travers les siècles et à travers lui. Un soir, tous les chiens se joignirent à lui. Avec les aurores boréales qui flambaient froidement dans le ciel, avec la danse des étoiles dans l'air glacé, avec la terre engourdie et givrée sous son linceul de neige, cette plainte des huskies aurait pu résonner comme un cri de défi lancé par la vie. Mais elle était en mineur, faite de longs hurlements entrecoupés de petits sanglots, et tenait plus de l'imploration qu'on adresse à la vie, exprimant les tourments de l'existence. C'était une très vieille plainte, aussi ancienne que la race elle-même, l'un des tout premiers chants du monde dans sa jeunesse, lorsque tous les chants étaient tristes. Elle était grosse du malheur d'innombrables générations, cette mélopée qui émouvait si étrangement le chien Buck. Lorsqu'il gémissait et sanglotait, c'était pour dire cette douleur de vivre qui jadis hantait ses aïeux du monde sauvage, dire cette terreur et ce mystère du froid et des ténèbres qui n'étaient pour eux que mystère et terreur. Et cette émotion qui l'envahissait montrait combien il revivait pleinement, par-delà l'époque du gîte et du couvert, les âpres commencements de la vie au temps des ténèbres hurlantes. Ainsi, preuve que la vie n'est jamais qu'une suite d'automatismes, l'antique complainte s'élevait de sa gorge, et Buck montra de quoi il était capable. Et il put le faire parce que des hommes avaient soudain découvert un précieux métal jaune dans les contrées sauvages du Grand Nord.
Thank you.
Peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Michel Lebris.
London, il voit la nature comme une puissance brute, quelque chose qui vous traverse, vous écrase, vous broie. Et il est fasciné par la nature. C'est pas, il n'est pas dans l'admiration du cuicui des petits oiseaux le matin. Hein, c'est pas ça. Et au Klondike, de toute manière, il n'a pas le temps de s'occuper de ça.
C'est le Klondike où il allait chercher de l'or.
Oui. Non, non, il faut comprendre. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça qu'il va être célèbre aux États-Unis. S'il avait été juste un militant socialiste, il n'aurait pas fait long feu en Amérique. C'est The Call of the Wild. Le wild, c'est une puissance obscure, disons, quelque chose au cœur du monde, qui est une puissance à la fois et indifféremment de destruction et de création, que pour survivre, on doit percevoir en soi. Et la question après, c'est de savoir si cette puissance, elle vous détruit, ou si vous arrivez à la maîtriser pour la rendre créatrice.
Bientôt, Buck s'impose dans la meute et doit affronter son grand rival. Fier de ses origines, Buck s'enorgueillit et brigue le pouvoir. Une nuit, aiguillonné par la faim, il se lance à la poursuite d'un lièvre et se retrouve à la tête d'une horde impressionnante, rassemblant les chiens du campement voisin. Lors de la course-poursuite, il doit faire face à son pire ennemi, Spitz, le chien de tête du traîneau, le redoutable chef de la bande. Endurci à la bagarre, Buck relève le défi. Extrait du chapitre 3, Le mal des origines. Buck conduisait la meute, forte de 60 bêtes. Son corps splendide, projeté en avant, enchaînait les bonds sous la lune blafarde. En enchaînant les mêmes bonds, tel un pâle spectre des neiges, le lièvre lui échappait sans cesse. Mais l'éveil de ses instincts exaltait Buck. Il est une extase qui marque le point culminant de l'existence. Or, voici le paradoxe. Cette extase survient lorsqu'on a la sensation de vivre le plus pleinement possible et qu'on oublie en même temps que l'on est en vie. Extase et oubli saisissent l'artiste, emporté hors de lui-même dans un tourbillon de flammes. Ils saisissent le soldat, ivre de folie guerrière sur un champ de bataille, et il s'emparait, à présent, de Buck, qui poussait l'ancestral hurlement du loup, tout son être tendu à la poursuite de la viande vivante. Il était possédé par le pur surgissement de la vie, la puissante vague de l'être, parce que c'était tout le contraire de la mort. La vie rayonnait et se déchaînait, s'exprimait dans le mouvement, s'élançait en exultant sous les étoiles. Spitz, froidement calculateur, quitta le groupe et emprunta une étroite langue de terre qui coupait la trajectoire de la meute. Buck ne s'en aperçut pas, et alors qu'il suivait le spectre du lièvre fuyant toujours devant lui, il vit un autre spectre des neiges, bien plus grand, bondir du haut de la rive, juste devant le fuyard. C'était Spitz. Le lièvre ne put l'éviter, et lorsque les dents blanches lui brisèrent l'échine en plein vol, le fuyard poussa un hurlement aussi déchirant que celui d'un homme blessé. En entendant résonner ce cri, tous les chiens qui suivaient Buck répondirent par un concert de joie démoniaque. Buck ne s'y joignait pas. Il ne s'arrêta pas, mais se rua sur Spitz. Ils roulèrent sans fin dans la neige poudreuse. Spitz se redressa, déchirant l'épaule de Buck de haut en bas, avant de s'écarter d'un bond. Ses dents claquèrent comme les mâchoires d'acier d'un piège, tandis qu'il reculait pour prendre un meilleur appui. En un éclair, Buck comprit. L'heure était venue, celle du combat à mort. Tandis qu'il tournait en rond, s'épiant attentivement, Buck percevait la scène comme si elle lui était familière, comme si tout lui revenait en mémoire. La forêt enneigée, le clair de lune, le frisson du combat. Pas le moindre souffle de vent, rien ne bougeait, pas une feuille ne tremblait. La laine argentée des chiens restait suspendue dans l'air glacé. Spitz était aguerri au combat. À travers toute l'Arctique, du Spitzberg au Barents, en passant par le Canada, il avait dominé toutes sortes de chiens. Sa rage était féroce, mais jamais aveugle. Il n'attaquait jamais sans avoir préparé sa défense. Buck s'efforçait en vain d'enfoncer ses dents dans le cou du grand chien blanc, mais à chaque assaut, Spitz parait l'attaque. Les crocs s'entrechoquaient, les babines se déchiquetaient. Spitz était indemne, alors que Buck ruisselait de sang. Le combat devenait désespéré. Et pendant ce temps-là, le cercle silencieux des chiens-loups attendait de pouvoir achever le premier des deux qui tomberait. Buck possédait toutefois une qualité qui était la source de sa grandeur, l'imagination. Il chargea comme pour réessayer le coup de l'épaule, mais au dernier moment, il plongea à terre et ses dents se refermèrent sur la patte avant gauche de Spitz. Il eut un craquement d'os brisé, puis Buck répéta sa ruse et lui brisa la patte avant droite. Malgré la douleur et l'impuissance, Spitz lutta désespérément pour se maintenir debout. Il vit le cercle silencieux des chiens qui se rapprochaient de lui, les yeux étincelants, la langue pendante. Il avait bien vu des cercles semblables se refermer sur des adversaires malchanceux, sauf que cette fois-ci, c'était lui le vaincu. Plus aucun espoir pour lui. Buck se mit en position pour l'assaut final. Le cercle s'était rétréci au point qu'il sentait le souffle des huskies sur ses flancs. Le temps parut se suspendre. Chaque bête était immobile, comme pétrifiée. Seul Spitz tremblait, le poil hérissé, tandis qu'il tanguait sur place, grognant d'horribles menaces comme pour faire reculer la mort imminente. Alors Buck bondit, et lorsqu'il fondit sur Spitz, il sentit qu'il avait heurté son adversaire de plein fouet. Le cercle de ténèbres ne fut plus qu'un point sur la neige baignée de lune, tandis que Spitz disparaissait à la vue. Buck contempla la scène en vainqueur. Le mal des origines avait tué sa proie et en avait tiré du plaisir. Avançons dans l'intrigue. Lorsque l'expédition arrive enfin à destination, Buck n'est pas au bout de ses peines. Ayant rempli leur mission, les deux Canadiens français revendent leur attelage à des aventuriers peu scrupuleux qui maltraitent les chiens. Affamés, roués de coups, les bêtes meurent les unes après les autres. Lors d'une étape, Buck refuse de continuer. Il est sauvé d'une mort imminente par l'intervention d'un homme au grand cœur, John Thornton, qui le prend sous sa coupe. Pendant un an, Buck accompagne son nouveau maître et ses deux compagnons, Hans et Pete, dans les régions les plus reculées du Yukon canadien. L'automne suivant, alors qu'il traverse une rivière dangereuse, c'est au tour de Buck de sauver la vie de son maître. Est-ce un juste retour des choses, comme par devoir moral, ou un simple réflexe pour la survie des siens? Dans la scène suivante, Thornton est seul sur une frêle embarcation que Hans et Pete, restés sur le rivage, tentent de manœuvrer à distance par une corde. Extrait du chapitre 6, « Pour l'amour d'un homme ». L'embarcation chavira et fut ramenée à l'envers jusqu'au bord de la rive, où Hans et Pete tentaient de la guider à l'aide d'une mince corde de chanvre. Pendant ce temps, Thornton, brutalement projeté à l'eau, était emporté par les flots jusqu'aux rapides les plus terribles de la rivière Forty Miles, véritable déferlement auquel nul nageur ne pouvait survivre. Resté sur la berge, Buck s'était jeté à l'eau instantanément. Et 300 yards plus loin, au milieu d'un maelstrom déchaîné, il parvint à rattraper son maître. Dès qu'il sentit ce dernier lui saisir la queue, Buck se dirigea vers la terre ferme, déployant toute sa splendide force. Mais la progression vers la berge était lente, le mouvement vers l'aval incroyablement rapide. Un rugissement mortel leur parvenait de l'endroit où les courants les plus effrénés encore se déchiraient en gerbes sur les rochers hérissés. La force avec laquelle l'eau les aspirait en s'engouffrant dans l'ultime goulet abrupt était terrifiante, et Thornton savait que le rivage restait hors d'atteinte. Il s'écorcha atrocement sur un rocher, rebondit sur un deuxième et heurta violemment un troisième. Il s'agrippa des deux mains au sommet glissant du rocher et par-dessus le mugissement des remous bouillonnants, il s'écria « Va, Buck, va !» Buck, emporté vers l'aval, luttait désespérément sans pouvoir regagner de terrain. Lorsqu'il entendit l'ordre de Thornton, il se dressa à demi hors de l'eau, comme pour lui jeter un dernier regard, puis reprit docilement la direction de la berge. Il s'y jeta de toutes ses forces et fut tiré à terre par Hans et Pete au moment même où nager devenait impossible et l'anéantissement inévitable. Les deux hommes savaient qu'un individu ne pouvait rester plus de quelques minutes accroché à un rocher glissant, fouetté par un courant pareil. Alors ils escaladèrent la falaise à toute vitesse pour atteindre un point surplombant de très haut, l'endroit où Thornton luttait. Ils attachèrent autour du cou et des épaules de Buck la corde qui leur avait servi à retenir la barque, prenant bien garde qu'elle ne l'étrangle pas ou ne l'empêche de nager, et ils le jetèrent à l'eau. Buck s'élança vigoureusement et fila droit dans le courant. Buck tint bon jusqu'à se trouver juste au-dessus de Thornton. Alors, nageant à la vitesse d'un train express, il se dirigea droit sur son maître. Celui-ci le vit venir et au moment précis où Buck le heurta comme un bélier poussé par la force de l'eau vive, il tendit les deux bras et les referma sur le cou hirsute. Hans fit passer la corde autour d'un tronc d'arbre. Buck et Thornton furent engloutis sous l'eau. Étranglés, suffoquants, reparaissant chacun leur tour à la surface, traînés sur le fond hérissé de pointes rocheuses, précipités contre les pierres et les morceaux de bois, ils furent enfin hissés sur la berge. Thornton revint à lui, allongé sur le ventre, tandis que Hans et Pete le faisaient rouler d'avant en arrière sur un morceau de bois flotté. Son premier regard fut pour Buck. Au-dessus du corps flasque et apparemment sans vie du chien, Nig, un autre chien de la meute, poussait un hurlement lugubre. Malgré les multiples contusions dont il souffrait lui-même, Thornton examina attentivement le corps de Buck enfin ranimé et découvrit trois côtes cassées. « T'es décidé, annonça-t-il. On va camper ici. » Et c'est ce qu'ils firent jusqu'à ce que les côtes de Buck fussent réparées et qu'il pût reprendre la piste. Ainsi, par cet exploit héroïque, Buck grava son nom plus haut encore sur le totem de la renommée en Alaska. Auprès de Thornton, Hans et Pete, Buck mène enfin une existence heureuse. Mais tandis qu'il passe de longues heures à méditer au coin du feu, le chien est en proie à de curieuses visions. Il rêve d'hommes de petite taille, au poitrail velu, vêtus de peau de bête. Il les voit grimper aux arbres la nuit, tandis que lui, auprès de sa meute, espère n'en faire qu'une bouchée. C'est comme si Buck voyageait dans le temps remontant à l'époque préhistorique. Retrouvons le chien et ses maîtres l'été suivant. Une nuit, tourmenté par la résurgence de ses origines, Buck semble hésiter entre le monde humain et le monde animal, entre la vie civilisée et la vie sauvage. Extrait du chapitre 7, Quand résonne l'appel. Des pulsions irrésistibles s'emparaient de lui. Il était couché dans le campement, en train de somnoler paresseusement dans la chaleur de la journée, quand soudain sa tête se relevait et ses oreilles se dressaient, attentives, à l'écoute. Et il bondissait sur ses pattes pour détaler, toujours plus loin, des heures durant, à travers les allées forestières. Il adorait galoper le long des cours d'eau asséchés ou ramper furtivement pour épier les oiseaux dans les arbres. Il aimait tout particulièrement courir au crépuscule de minuit en plein été et écouter les murmures feutrés de la forêt assoupie, déchiffrant les signes et les sons comme un homme lirait un livre à la recherche de ces mystérieuses choses qui l'appelaient, éveillé ou endormi, à toute heure, et lui disaient de venir. Une nuit, il s'éveilla en sursaut, le regard plein d'espoir. Ses narines frémissaient en flairant les odeurs et sa crinière se hérissait par vagues successives. Dans la forêt, retentissait l'appel. Plus clair et plus distinct que jamais, un hurlement prolongé, semblable au cri d'un husky et pourtant différent. Et il reconnut là, de tout temps familier, un son qu'il avait déjà entendu auparavant. Il bondit à travers le campement endormi et s'élança en silence dans les bois. À mesure qu'il s'approchait du cri, il ralentit l'allure, se déplaçant avec prudence, jusqu'à déboucher dans une clairière. Et là, il vit... assis, le corps tendu, le museau pointé vers le ciel, efflanqué, longiligne, un loup. Il n'avait pas fait le moindre bruit et pourtant la bête cessa de hurler et s'efforça de percevoir sa présence. Buck s'avança lentement. Chacun de ses mouvements exprimait à la fois la menace et une invitation au contact animal. C'était la trêve chargée d'hostilité qui caractérise la rencontre des animaux de proie dans le monde sauvage. Mais le loup prit la fuite en voyant le chien. Celui-ci le pourchassa, le força à emprunter un cul-de-sac. Acculé, Le loup fit volte-face. Il grognait, le poil hérissé. Buck ne l'attaqua pas, mais tourna autour de lui en répétant ses avances amicales. Le loup, comprenant qu'on ne lui voulait aucun mal, finit par lui renifler la truffe. Alors ils firent ami-ami et batifolèrent. Au bout d'un moment, le loup repartit tranquillement. Il fit comprendre à Buck qu'il devait le suivre. Et ils coururent côte à côte dans le sombre crépuscule, remontant tout droit le lit de la rivière jusque dans le ravin où elle prenait sa source. Ils débouchèrent sur un immense plateau où s'étendaient d'immenses forêts. Buck exultait d'une joie sauvage. Il comprenait qu'il répondait enfin à l'appel, galopant aux côtés de son frère des grands bois pour rejoindre l'endroit d'où émanait cet appel. Des souvenirs anciens lui revenaient en rafale. Il avait accompli la même chose auparavant, quelque part dans cet autre monde qu'il se rappelait confusément. Et il l'accomplissait de nouveau aujourd'hui. Courir libre au grand air, le ciel ouvert au-dessus de sa tête. Ils firent halte auprès d'un torrent pour boire et en s'arrêtant, Buck se rappela John Thornton. Il s'assit. Le loup se remit en route vers l'endroit d'où provenait sûrement l'appel, puis revint vers Buck. Il lui flaira la truffe et sembla tout mettre en œuvre pour l'encourager. Mais le chien fit demi-tour et reprit lentement la piste du retour. Durant presque une heure, son frère sauvage courut à son côté en poussant de petits gémissements. Le loup finit par s'asseoir, pointer son museau vers le ciel et se mettre à hurler. C'était un hurlement lugubre. Et tandis qu'il maintenait son cap sans faiblir, Buck l'entendit résonner de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il se perdît dans le lointain.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Can't help but read.
Peu après, Buck succombe à nouveau à l'aiguillon de la violence. Renouant avec ses instincts ancestraux, Buck se comporte de plus en plus comme ce qu'il est, un prédateur. Voulant éprouver sa force, il affronte des proies de taille impressionnante, un ours noir, un orignal. Mais un jour, de retour de l'une de ses échappées sauvages dans la forêt, le chien découvre l'ampleur de la catastrophe qu'il appréhendait depuis si longtemps. Nous sommes toujours au chapitre 7, quand résonne l'appel, quelques pages plus loin. À plusieurs reprises, il s'arrêta pour inspirer à grande goulée l'air frais du matin et y déchiffrant un message qui le fit repartir en bondissant de plus belle. Il se sentait oppressé par l'impression qu'une calamité était sur le point de se produire et même s'était peut-être déjà produite. Et lorsqu'il s'engagea dans la vallée conduisant au campement, il s'avança en redoublant de prudence. 3 miles plus loin, il tomba sur une piste fraîchement tracée qui fit se hérisser les poils de son cou en vagues successives. Cette piste conduisait droit au campement et à John Thornton. Buck accéléra l'allure, vif et furtif, tous ses nerfs tendus à l'extrême, attentif à la myriade de détails qui racontaient une histoire, complète, à l'exception de la fin. Sa truffe lui indiquait le passage d'êtres vivants. Il nota le lourd silence de la forêt. Les oiseaux s'étaient enfuis à tire-d'aile, les écureuils se cachaient. Tandis que Buck glissait, aussi obscur qu'une ombre, son museau fut brusquement attiré sur le côté. Il suivit cette nouvelle odeur jusque dans un fourré et découvrit Nig, l'énorme chien Saint-Hubert. Il était allongé sur le flanc, mort là où il avait pu se traîner, une flèche dépassant de chaque côté de son corps. Buck le contourna et reprit son chemin. Du campement lui provenait la faible rumeur de nombreuses voix qui psalmodiaient un chant monotone. S'avançant jusqu'au bord de la clairière, il trouva Hans couché face contre terre, hérissé de flèches comme un porc-épic. Au même instant, Buck scruta l'endroit où se dressait auparavant la cabane en ronde d'un de ses maîtres et vit ce qui lui avait si brusquement fait dresser le poil. Un ouragan de rage incontrôlé s'empara de lui. Pour la dernière fois de sa vie, il laissa la fureur prendre le dessus sur la ruse et la raison, et ce fut à cause de son immense amour pour John Thornton qu'il perdit la tête. Les Indiens de la tribu Yeehats dansaient autour des restes de la cabane lorsqu'ils entendirent un effrayant rugissement et virent se ruer sur eux un animal dont ils n'avaient jamais vu l'appareil. C'était Buck, véritable tornade vivante et déchaînée qui se précipitait dans une fureur destructrice. Il bondit sur l'homme le plus important, c'était le chef des Yeehats, lui déchira la gorge et ouvrit dans un deuxième bond la gorge d'un autre homme. Rien ne pouvait l'arrêter. Il plongeait et replongeait parmi eux. Il déchirait, arrachait, ses terribles mouvements défiaient sans relâche les flèches qui lui décochaient. Alors un vent de panique s'empara des Yeehats et ils s'enfuirent terrifiés au fond des bois, proclamant dans la débandade l'avènement de l'esprit malin. Et Buck était véritablement le démon incarné, écumant de rage sur leurs talons et bondissant pour les plaquer au sol comme des cerfs tandis qu'ils s'enfuyaient entre les arbres. Jour fatal pour les Yeehats. Ils se dispersèrent très loin à travers toute la contrée et une semaine entière s'écoula avant que les derniers survivants se réunissent dans une vallée pour compter leurs pertes. Fatigué par la poursuite, Buck retourna au camp dévasté. Il découvrit Pete là où il avait succombé, tué par surprise dans ses couvertures. Quant à son maître, la lutte désespérée qu'il avait menée était fraîchement écrite sur le sol, et Buck en flaira tous les détails jusqu'au bord d'une profonde mare. La mare elle-même, bourbeuse, cachait effectivement ce qu'elle contenait, à savoir le corps de John Thornton, car Buck avait suivi sa trace jusque dans l'eau, et nulle autre trace n'en ressortait. Buck passa la journée à ruminer sur les bords de la mare ou à sillonner sans fin le campement. La mort en tant qu'arrêt du mouvement, passage hors de la vie des vivants, il savait ce que c'était. Et il savait que John Thornton était mort. Cela laissait un grand vide en lui, qui ressemblait un peu à de la faim. Mais ce vide-là lui faisait mal, si mal, et aucune nourriture ne pouvait le combler. De temps en temps, il contemplait les carcasses des Indiens. Il oubliait la douleur, et il avait alors conscience d'être très fier de lui-même, plus fier qu'il ne l'avait jamais été. Il avait tué l'être humain, le plus noble de tous les gibiers, et il avait tué au mépris de la loi du gourdin. Il flaira les corps, intrigué, mort si facilement. Tuer un husky demandait bien plus d'efforts. Sans leurs flèches, leurs lances et leurs gourdins, les hommes étaient des adversaires dépourvus de toute valeur. Désormais, il n'aurait plus peur d'eux. tomba. Une pleine lune s'éleva au-dessus des arbres, illuminant le paysage jusqu'à le baigner d'un jour spectral. Et à mesure que venait la nuit, tandis qu'il méditait et se lamentait près de la mare, Buck s'éveilla au frisson de cette nouvelle vie dans la forêt. Il se releva, les oreilles et la truffe en alerte. Venu de très loin, lui parvint un jappement, faible et incisif, suivi d'un chœur de jappements similaires. Les minutes s'écoulaient et les jappements se rapprochaient, plus puissants. Buck s'avança au centre de l'espace et écouta. C'était l'appel. L'appel aux mille notes, qui résonnait plus attirant et plus impérieux que jamais auparavant. Et comme jamais auparavant, Buck était prêt à lui obéir. John Thornton était mort. Le dernier lien était rompu. Il n'était plus lié à l'homme et à ses exigences. Chassant la chair fraîche, la horde des loups avait quitté la contrée des ruisseaux et des forêts pour envahir la vallée de Buck. Dans la clairière où ruisselaient les rayons de la lune, ils se répandirent en un flot argenté. Et au centre de l'espace ouvert se dressait Buck, aussi impassible qu'une statue qui attendait leur venue.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Cédric Châtelut. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Léla Kourosélikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bon après-midi et à la semaine prochaine.